L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit :
Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?
Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus :
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?
Il leur dit :
Allez à la ville où se t'appelle et dis : Le maître te fait dire, entends les proches, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara :
Vraiment, je vous le dis, l'un de vous va me livrer.
Profondément attristé, il se mit à lui demander l'un après l'autre :
Serait-ce moi, Seigneur ?
Il leur répondit :
Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme.
Judas, celui qui le livrait, prit la parole.
« Rabbi, serait-ce moi ?»
Jésus lui répond : Pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Puis prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit :
Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée.
Pierre lui dit :
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas, jamais.
Jésus reprit :
Vraiment, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois.
Pierre lui dit :
Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples en disaient autant. Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier.
Il emmena Pierre ainsi que les deux fils de Zébédée, et commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
Mon âme est triste en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi.
Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière :
Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux.
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre :
Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
Il retourna prier une deuxième fois :
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, ta volonté soit faite.
Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit :
Vous pouvez dormir et vous reposer. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est venu celui qui me livre.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, suivi d'une grande foule, armé d'épées et de bâtons, envoyé par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe :
Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le.
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit
« Salut, Rabbi !»
Et il l'embrassa. Jésus lui dit
« Mon ami, fais ta besogne. »
Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit
« Grand que ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père qui mettait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accomplirait l'Écriture? Le présent, c'est ainsi que tout doit se passer. »
À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Alors les disciples abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent
« Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours, je le rebâtis. »
Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit
« Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. »
Jésus lui répond
« C'est toi qui l'as dit. Dans ton cas, je vous déclare, les hommes et les fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant
« Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis ?»
Ils répondirent
« Il mérite la mort !»
Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups, d'autres le giflèrent en disant
« Fais-nous le prophète, Messie, qui est-ce qui t'a frappé ?»
Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui. Mais il nia devant tout le monde.
« Je ne sais pas ce que tu veux dire. »
Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là.
« Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. »
De nouveau, Pierre le nia.
« Je jure, je ne le connais pas, cet homme. »
Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre.
« Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. »
Alors il se mit à protester violemment et à jurer
« Je ne connais pas cet homme. »
Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas le traître fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit
« J'ai péché en livrant à la mort un innocent. »
Ils répliquèrent
« Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. »
Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent
« Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. »
Après délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea.
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus déclara :
C'est toi, Guillaume.
Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit :
Tu n'entends donc pas tous les témoignages portés contre toi ?
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit :
Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?
Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : Les chefs des prêtres et les anciens poussaient les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit :
Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?
Ils répondirent :
Barabbas !
Il reprit :
Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?
Ils répondirent tous :
On le crucifie !
Il poursuivit :
Quel mal a-t-il donc fait ?
Il criait encore plus fort :
On le crucifie !
Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant :
Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde.
Tout le peuple répondit :
Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants.
Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant :
Salut, roi des Juifs !
Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du pain mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation : Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête :
Toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de ta croix.
De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens :
Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis Fils de Dieu.
Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte :
Eli, Eli, lama sabachthani.
Ce qui veut dire :
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant,
« Voilà qu'il appelle le prophète Élie. »
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Les autres dirent,
« Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. »
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent,
« Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. »
Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau, qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, Pilate leur déclara,
donnez garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez.
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Juste une petite annonce, vous pouvez vous asseoir. Les enfants qui sont avec Frère Diego et Sœur Anne-Claire-Marie peuvent sortir quelques minutes maintenant.
Chers frères et sœurs, quel contraste entre l'entrée festive que nous venons de vivre il y a quelques instants dans les ruines, l'entrée festive de Jésus à Jérusalem, que nous avons célébré tant bien que mal avec nos rameaux, malgré la pluie, et la lecture de la Passion que nous venons d'entendre. La liturgie a réuni ces deux textes dans la même messe. Et c'est pour nous tout un symbole. Ce sont les mêmes qui ont acclamé Jésus, les mêmes qui vont réclamer sa mort, qu'on le crucifie. Son sang qui retombe sur nous et sur nos enfants. Quel contraste aussi entre l'attitude de Jésus qui se donne, qui se livre, qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous », qui est bien conscient que ce sont les derniers moments, je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'au jour ou avec vous je boirai le vin nouveau dans le royaume de mon Père, qui contraste entre cette attitude de Jésus qui s'avance volontiers vers la passion et toute cette atmosphère de mort, cette atmosphère lourde qui ressort de la lecture de la passion. Jésus s'avance résolument vers la mort. Qui contraste encore entre les promesses de fidélité des disciples, des apôtres, et ce qu'ils vont faire la même nuit, au chant du coq. Contraste entre chacun qui dit « Serait-ce moi, Seigneur ?» et tous jurent « Non, je ne le ferai pas. » Et dès que viennent les gardes, ils s'enfuient, ils se dispersent. Quel contraste aussi entre cette prière angoissée, confiante de Jésus, une prière bien réelle, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Quel contraste entre cette prière angoissée et la prétention de Pierre. « Même si tous tombent et abandonnent, moi, jamais. » Quel contraste encore entre l'attitude des apôtres privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, auxquels Jésus demande de l'accompagner dans ce moment de l'agonie à Gethsémani, et qui tombent de sommeil. Leurs yeux étaient lourds de sommeil. Et d'un autre côté, Jésus qui prie instamment et qui va au-devant. « Levez-vous, allons, celui qui me trahit est déjà là. » On pourrait prolonger la liste et les contrastes bien longtemps. On est un petit peu tenté de dire « eux, ils ont fait », mais ce serait beaucoup plus juste de dire « nous avons fait, je l'ai fait ». N'avons-nous pas la même réaction quand se présente le mystère de la croix ? Ne sommes-nous pas comme eux, comme des girouettes qui disent « nous acclamons le Seigneur, nous croyons » et peu de temps après, nous sommes dans la trahison. Ne suis-je pas du côté des prétentieux, de ceux qui protestent leur fidélité et qui baissent les bras au jour de l'épreuve? Ne sommes-nous pas tous témoins de la prière du don de Jésus dans son Eucharistie? Et souvent nous passons distraitement quand nous ne sombrons pas dans le sommeil. La passion de Jésus met en scène une multitude d'attitudes, de personnes, les apôtres, Pierre, Judas, le grand prêtre, Pilate. Et au fond, ces multiples façons de réagir face à la croix sont une invitation pour chacun de nous à nous situer par rapport à Jésus au moment de l'épreuve. Choisissons l'attitude de Jean et de Marie, des femmes qui accompagnent Jésus, qui vont jusqu'au bout. Ils ne veulent pas démontrer leur force, comme Pierre qui sort une épée, qui veut se battre. Elles sont bien conscientes que c'est Jésus qui sauve. Ils ont cette humilité que c'est Jésus qui sauve. Ils ne sont que des témoins affligés, compatissants. Ils n'ont qu'un amour pauvre, un amour humilié à offrir. Ils n'ont que cette compassion. Ils restent là jusqu'au bout. Ils sont fidèles. Et Marie espère contre toute espérance. L'Église, dans sa foi, a toujours considéré que Marie a gardé la foi, y compris après la mort de Jésus, jusqu'au jour de la résurrection. Cette attitude de Marie, de Jean, des quelques femmes qui l'ont accompagnée jusqu'au bout, doivent être notre attitude pour ces jours saints que nous allons vivre cette semaine. Ce sont des attitudes pour vivre la messe, pour vivre la liturgie, pour vivre notre foi. Évidemment, c'est une attitude bien concrète dans la vie de tous les jours, dans ma vie de famille, dans mon couple. Est-ce que je me considère comme le sauveur? C'est moi qui, par ma force, vais sauver la situation, au lieu de trouver mon secours en Dieu. Ce que Dieu me demande, c'est de porter par ma prière, par mon attitude, et de laisser la place à Dieu qui seul est le sauveur. Dieu seul peut combler le cœur de mon conjoint, de mes enfants. Attitude d'humilité, de compassion dans la détresse, être présent dans les joies et dans les peines jusqu'au bout, même si je n'ai qu'un amour pauvre, un amour affligé, quelquefois. Être fidèle chaque jour, pas juste une présence, mais un oui renouvelé, un oui de chaque jour, dans des gestes concrets. Attitude d'espérance, de foi. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Toute souffrance a un sens, toute souffrance a son poids d'éternité.